de nos studios de Neuchâtel, professeur de logopédie à l'université justement de Neuchâtel, invité par Anne Bécher.
Merci.
Pour terminer notre série sur la science pour aider les plus démunis, un grand invité, Klaus Schoenberger. Il est ingénieur, chargé de cours et chef du programme Essential Tech à l'EPFL, Adrien Zerbini.
Oui, la formule du programme Essential Tech de l'EPFL est réduire la pauvreté avec des technologies essentielles. Alors avouez que pour terminer notre série de la semaine dont le thème est la science au service des plus démunis, ben ce programme Essential Tech tombe à pic.
Alors reste à comprendre exactement ce qu'on appelle justement une technologie essentielle.
Et pour le comprendre, ben, le plus simple c'est de s'adresser et de s'intéresser directement au parcours de Klaus Schoenberger. Au départ un parcours d'ingénieur, j'ai envie de dire classique, études à l'EPFL, post-doc aux États-Unis, puis retour en Suisse pour exercer son métier dans une entreprise développant des machines médicales, un parcours brillant qui aurait pu combler notre invité, sauf qu'un jour, son parcours prend un virage inattendu.
Mais quel suspense!
Vous avez vu ça?
Que va-t-on trouver derrière ce virage? Et ben, vu que vous êtes là, Klaus Schoenberger, on va vous poser la question. Voilà, expliquez-nous ce qui s'est passé.
J'étais directeur de la recherche et développement dans une entreprise qui était en fait une entreprise américaine. Et comme tout directeur ou disons leader dans une entreprise, je regardais évidemment ce que faisaient mes petits camarades de la concurrence. Donc je lisais les rapports annuels de grosses boîtes qui étaient actives dans le domaine des équipements médicaux. Et j'ai eu un électrochoc parce que j'ai vu que dans une de ces boîtes, qui vendait à peu près tous les équipements médicaux qu'on peut imaginer, leur vente c'était 90% dans les, aux États-Unis, en Europe et au Japon. Mmh. Et j'ai juste pas compris pourquoi le reste du monde, qui était quand même l'immense majorité, ça représentait plus de 90% de la population mondiale, était pratiquement absent des ventes de ces équipements médicaux.
Mmh. Donc il y a cette révélation, vous découvrez en somme que nous vivons dans une petite partie du monde qui a accès à l'essentiel, une partie très privilégiée. Alors qu'est-ce que vous faites ?
Bon, c'est vrai que rétrospectivement, on peut se dire que c'était pas mal naïf de le découvrir à ce stade-là, mais... Ce que j'ai commencé par faire, c'est essayer de comprendre pourquoi c'était comme ça, pourquoi il y avait ce manque d'accès à la technologie médicale. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin spécialiste de la médecine tropicale qui s'appelle Beat Stoll, avec qui je suis parti au Cameroun pour essayer de voir ce qui se passait dans les hôpitaux. Et j'ai pu me rendre compte du fait que les équipements étaient généralement en dysfonction, donc ils ne fonctionnaient pas. Et d'ailleurs, d'après l'OMS, moins d'un tiers des équipements médicaux qui sont donnés dans les pays du Sud sont mis en service. Ça veut dire que la grande majorité, ils ne sont même pas mis en service et ceux qui le sont ne fonctionnent souvent pas. Mmh. Et là, j'ai eu un déclic qui était que la technologie et les modèles d'affaires qui étaient existants n'étaient simplement pas adaptés à ces contextes. Et donc, j'ai quitté mon entreprise et j'ai été rejoint depuis ensuite par un spécialiste du marketing qui s'appelle Bertrand Kléber. Et on a fondé ensemble, avec le médecin, une fondation qui s'appelle Essential Med, avec pour but de fournir des équipements médicaux adaptés à ce contexte, avec une première idée qui était de s'attaquer à quelque chose de compliqué qui était l'imagerie médicale et qui semblait être un défi majeur.
Mmh. Là, à ce moment-là, lorsque tout ça commence à germer, à se développer, vous êtes en lien avec l'EPFL encore ?
Alors au début, non, pas du tout. Mais assez vite, on s'est rendu compte que ces technologies et les business models devaient être complètement repensés de zéro. Et parce que faire bon marché, robuste et adapté à des contextes aussi particuliers que les pays du Sud, ça demande un savoir de pointe. Et donc, je me suis rapproché de l'EPFL avec ces idées. Et on m'a proposé de rejoindre le Centre de coopération et développement de l'EPFL avec pour mission de lancer ce programme Essential Tech. J'avais vraiment toute l'attitude pour le faire, donc c'était une magnifique opportunité. Peut-être juste pour expliquer, le Centre de coopération et développement de l'EPFL, c'est un centre qui ne fait pas partie des facultés, donc qui est en dehors des facultés, et qui a pour mission principale de promouvoir la coopération scientifique pour le développement.
Alors justement, vous rejoignez ce CODEV, ce Centre de coopération et développement de l'EPFL, et puis en fait, entre guillemets, vous allez encore... élargir votre horizon, parce que là, vous partez de ce constat, pas de machine d'imagerie médicale dans les pays du Sud, il faut faire quelque chose, et finalement, vous ouvrez encore votre vision aux technologies essentielles, c'est-à-dire là, vous avez mentionné Essential Tech, technologie essentielle, donc on ne parle plus que d'imagerie médicale à ce moment-là.
Oui, alors c'est vrai que le but de la fondation, c'était l'équipement médical. Le premier défi, quand on a créé Essential Tech, c'était de dire, mais... quelles sont les technologies dont on a vraiment besoin et qui peuvent avoir un impact sur le développement? Et Évidemment, on a eu besoin d'un cadre de référence. Donc on s'est dit, bon, quelles sont les grandes initiatives en cours pour essayer de réduire la pauvreté? Et on est tombé sur les objectifs. À l'époque, c'était les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est les objectifs du développement durable. Mais c'était un engagement de tous les pays de réduire la pauvreté de moitié dans le monde. Jusqu'en 2015.
C'était entre 2000 et 2015.
C'est ça, ça exactement. Et donc, on a pris ce cadre de référence. Il y a 8 objectifs du développement durable. Et on a commencé à les regarder, à les analyser de près, sous l'angle, avec l'œil de l'ingénieur. En se disant, bon, quelles sont ces technologies vraiment qui peuvent contribuer? Et on en a trouvé 8. Les technologies du pharmaceutique, donc les médicaments, les vaccins, etc. Les technologies médicales.
Donc là, typiquement cet appareil d'imagerie.
Voilà, tomberait dans cette catégorie. Mmh. Ensuite, l'énergie, les technologies de l'information, de la communication, les transports, la construction, l'eau et l'agriculture. Ça, c'était les 8 domaines technologiques clés dans lesquels les PFL a des compétences. Et donc, le but, c'était ensuite de développer des projets dans ces domaines pour contribuer au développement durable.
Notre grand invité, Klaus Schönenberger, aujourd'hui chef du programme Essential Tech à l'EPFL. Après un peu de musique, on va découvrir les réalisations que vous avez effectuées, notamment un appareil d'imagerie médicale, une combinaison de protection pour les soignants ou encore une prothèse de pied. Il est 10h20, tout cela, ce sera dans 2 minutes. Mind if I stay, c'était Kadé Bostani sur la première. Pour clore notre semaine consacrée à la science au service des plus démunis, nous avons un grand invité, Klaus Schönenberger, chef du programme Essential Tech à l'EPFL. On a bien compris votre parcours et votre démarche dans la première partie de cette rencontre. On va maintenant se pencher sur les projets que vous avez mis en œuvre, à commencer par un projet d'imagerie médicale.
Oui, alors c'est vrai qu'une chose que je trouvais absolument frappante, c'est que Röntgen, le fameux physicien allemand, a inventé la radiologie il y a plus de 120 ans en arrière. Et aujourd'hui, on a 2/3 de la population mondiale qui n'a pas accès à cette fonctionnalité. Donc imaginez, vous êtes au ski, vous vous faites mal, ça paraît absolument évident que la première chose qu'on va vous faire, c'est une petite radio pour savoir si vous avez une fracture ou pas.
Parfois chez le dentiste, ils en font avant même qu'on ait eu le temps de savoir si c'était vraiment utile ou pas.
Évidemment, dans les pays du Sud, vous avez une situation, enfin, en général dans le monde, on a plus de 50 millions de victimes d'accidents de la circulation par année, et 90% de ces victimes vivent dans les pays du Sud. Et c'est là même qu'on n'a pas accès à la radiologie. Donc imaginez quelqu'un qui est polytraumatisé après un accident et on ne peut pas faire une radio. Donc ça, c'est un poids énorme sur la santé dans ces pays. Il y a évidemment les applications historiques comme la tuberculose aussi, pour lesquelles on a besoin de radiologie. Et enfin, je voudrais encore mentionner la pneumonie qui représente 20% de la mortalité infantile, donc des enfants de moins de 5 ans, et pour lesquels on a aussi besoin de faire une radio de temps en temps des poumons. Alors, la raison pour laquelle cette radiologie n'est pas disponible, et l'OMS l'avait déjà identifié dans les années 70, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau ce problème, il est ancien. Nous, on l'identifie à ce qu'on appelle, nous, en interne un peu, les 5 cavaliers de l'apocalypse. Alors, je sais que normalement, il y en a 4, mais nous, on dit qu'il y en a 5. Le premier cavalier, c'est qu'il y a un manque de personnel formé dans ces pays du Sud. Par exemple, les radiologues au Cameroun, c'est un pays qui a 20 millions d'habitants, il y a seulement 10 radiologues qui sont formés par année. Et parmi ces 10, une grande partie vont partir, puisqu'ils ont plus de valeur, entre guillemets, et ils vont aller offrir leurs services ailleurs. Ça, c'est le premier cavalier. Le deuxième, c'est un manque d'infrastructures de qualité. Là, vous avez des problèmes d'instabilité électrique, vous avez des coupures de courant en permanence, vous avez l'eau qui n'est pas disponible, etc. Le troisième, ce serait le manque de ressources financières, ça c'est une évidence, mais qui a des implications qu'on n'imagine pas forcément. On imagine souvent que les solutions de consommables, par exemple l'idée du rasoir où on peut racheter des pièces qui ne coûtent pas cher au départ, mais on rachète les pièces tout le temps, ça c'est une très mauvaise idée dans les pays du Sud. Et la radiologie, justement, fonctionne encore avec du film, de l'argentique. Donc on doit acheter ces films et ça, ça coûte très cher et c'est très compliqué au niveau logistique. Le quatrième cavalier, c'est le climat. L'environnement. Vous avez des environnements extrêmement chauds, humides, avec de la poussière, avec des rongeurs, avec des tas de situations de ce type-là, qui font que la technologie est quand même souvent attaquée. Et enfin, le dernier qui est très pernicieux, c'est des problèmes de gouvernance. Avec gouvernance, c'est vraiment la façon dont on prend les décisions et comment on applique les décisions. Donc là-dedans, on met aussi, par exemple, la corruption, évidemment. Donc, les appareils qui sont conçus pour des contextes hautement sophistiqués comme les pays industrialisés, des hôpitaux climatisés, bien gérés, eh ben, ils ne fonctionnent pas du tout, ils sont très inadaptés pour ces contextes-là. Et donc nous, on a décidé de développer un appareil de radiologie et son modèle de déploiement, donc son modèle d'affaires, de zéro, avec cette approche dans notre programme Essential Tech, qui est de dire, on développe des solutions complètes, de technologies abordables, robustes, adaptées au contexte, mais aussi le modèle d'affaires pour rendre les technologies durables. Et ça veut dire résoudre le problème de ces 5 cavaliers de l'apocalypse.
Alors il y a 3 ans, alors que l'appareil était encore en chantier, Adrien, vous aviez été rencontrer les différents artisans, hein, si on peut les appeler comme ça, qui étaient impliqués dans le développement de cet appareil imagerie médicale.
Oui, alors en fait d'artisans, il s'agit le plus généralement de professeurs, en l'occurrence là de professeurs à la HEIG-VD, donc la Haute École d'ingénieurs d'Yverdon, et où j'avais par exemple rencontré Philippe Bonnaute, qui est professeur en mécanique.
Alors nous, c'est essentiellement développer la partie mécanique du système et puis d'apporter l'essentiel des fonctionnalités qui sont disponibles sur un système haut de gamme, mais qui est cette fois-ci électronique et assisté de différentes manières, mais de prendre juste les fonctions qui sont utiles, nécessaires, et de les porter à un niveau mécanique, de faire en sorte qu'on arrive à faire ces fonctions-là avec un système qui est facile à réparer, qui est facile à maintenir, à
entretenir.
Voilà. Ouais.
Quand on va dans un cabinet de radiologie, on a ces bras qui sont animés par toutes sortes de moteurs électriques. Là, l'idée, on est devant donc un bout de prototype. L'idée, c'est que on enlève presque tous ces moteurs électriques ou tous ces moteurs électriques.
Voilà. Au niveau électronique, c'est assez difficile de retrouver des anciennes cartes ou l'obsolescence arrive très rapidement. Tandis que du point de vue mécanique, eh bien, c'est quelque chose qui est relativement facile à réparer. Et nous, on s'occupe d'essayer de faire toutes ces fonctions mécaniquement. Et c'est ça un peu la difficulté et l'intérêt, parce que ça permet de travailler réellement sur le mécanisme.
Alors la question piège, c'est est-ce que les premiers appareils de radiologie qui datent de je ne sais pas combien de temps n'étaient pas déjà tous mécaniques ?
Oui, en fait, c'est justement pour
on
ça.
On va refaire la roue.
Voilà, exactement, on va. Mais en essayant d'offrir le maximum des fonctionnalités qu'on a sur les appareils actuellement, et aussi d'offrir quelque chose qui soit robuste, durable et ergonomiquement adapté.
Devant nous, on est devant le pied de l'appareil, donc il y a des rails en métal, il y a quelque chose qui glisse sur le rail.
Donc on a essayé de faire un système qui soit aussi facile à maintenir. Donc on n'a pas de systèmes qui vont rouler, c'est plutôt des systèmes, ici il y a des guidages à frottement. On a privilégié des matériaux qui peuvent être recyclés à la fin de la vie du produit, mais pas avant la fin de la vie du produit si possible.
Ça va être revendu.
Voilà, exactement. Et puis l'essentiel des éléments mécaniques qui sont incorporés au système là sont des éléments très simples, qui sont faciles à entretenir en fait.
Alors là on est devant la première partie, donc le pied de base de l'appareil de radiologie. Où se trouve la complexité? Parce qu'on se dit finalement, faire simple, ça peut paraître simple.
Exactement, ouais. A priori, ça paraît très simple. On dit, il faut fixer un émetteur d'un côté, de l'autre côté, il y a le récepteur. Les deux choses ne doivent pas bouger l'un par rapport à l'autre. Et entre deux, on doit placer le patient. Donc le problème paraît assez simple. Mais à partir de là, le système est assez lourd. Donc le bras, par exemple, fait une soixantaine de kilos. Et ce bras, je dois pouvoir le manipuler avec un seul manipulateur et le déplacer sans assistance mécanique. Donc il doit être compensé à tout moment, donc dans toutes les positions, je ne dois pas avoir d'effort à produire pour pouvoir le manipuler. Je dois pouvoir le positionner avec une grande précision. Et c'est difficile de les arrêter et de les bloquer instantanément. Donc ça doit être quelque chose qui à la fois demande une grande précision avec une grande masse.
Philippe Bonneau, professeur en mécanique à la Haute École d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon. C'était en 2014 à votre micro, Adrien Zerbini, lors du développement donc de cet appareil d'imagerie médicale. Klaus Schönenberger, combien de chercheurs comme Philippe Bonneau ont été impliqués dans ce projet?
Alors, en tout, environ 40 personnes, donc qui représentent 20 laboratoires en Suisse et en Afrique. Je tiens vraiment à souligner, il y a aussi des partenaires africains, c'est très important. Donc, c'est un gros projet de recherche, très complexe, avec beaucoup de partenaires. On a eu un soutien vraiment essentiel, j'allais dire, de la HESSO, donc de la Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale, et de l'EPFL, évidemment, qui a vraiment soutenu ce projet depuis le début. Il y a de nombreux aspects qui sont couverts, donc l'ingénierie système, le modèle d'affaires, la question de maintenance, comme l'a dit Philippe Bonneau, la formation, etc. On a aussi, j'ai oublié de le dire, complètement repensé la façon de faire les images, puisqu'on parle dans un modèle d'imagerie digitale. Donc il y a beaucoup de questions autour de ces questions digitales. Évidemment, de trouver des solutions qui soient robustes avec de l'électronique, c'est un grand défi.
Et sans avoir besoin donc d'amener des films ou d'amener des consommables sur place. Si je me rappelle bien, parce que j'avais fait ce sujet en 2014, on émet aussi moins de rayons X. C'est-à-dire finalement, votre dispositif est moins nocif pour la personne qui prend les radios que beaucoup d'anciens dispositifs, voire que ceux qu'on utilise ici encore.
Alors oui et non, parce que c'est vrai que quand on passe en digital, on a besoin généralement de moins faire de moins de rayonnement. Le problème, c'est que ça devient aussi plus facile. C'est là où le problème de la formation est essentiel, parce qu'on a vite tendance à refaire une image, parce qu'on se dit, bon, de toute façon, on peut vite la refaire. Et donc, le rayonnement effectif reçu par le patient peut être plus élevé.
Et donc alors aujourd'hui cet appareil, là on l'a vu en chantier en 2014, il s'appelle Global Diagnostics, il est fonctionnel, il est terminé?
Alors juste pour rappel, notre modèle Essential Tech, c'est de dire on a seulement deux façons de faire en sorte que les technologies soient réellement déployées en fin de compte. La première façon, c'est de transférer la technologie à une entreprise qui existe et qui va la déployer. Et la deuxième, c'est de créer une start-up. Et c'est cette option-là qu'on a choisie pour Global Diagnostics. Donc oui, la première phase est terminée parce qu'on a créé la start-up, on est en train de transférer la technologie. Donc cette start-up est sous la direction de Bertrand Kléber. On est en train de lever un premier tour de financement et on espère vraiment pouvoir démarrer l'industrialisation, donc la phase industrielle de ce projet.
La machine existe, mais elle n'est pas encore répliquée
c'est ça,
de manière industrielle.
C'est ça. En même temps, la recherche continue parce qu'on continue d'améliorer les performances et puis la robustesse de la machine. Ça reste un très grand défi. Et donc tous les partenaires restent mobilisés et restent extrêmement motivés. Ça, c'est une belle chose.
Et vous visez prioritairement des pays en Afrique, vous avez beaucoup parlé d'Afrique jusqu'à présent.
On a toujours dit Africa first. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on peut résoudre le problème en Afrique, on ira ensuite aussi forcément en Asie du Sud-Est où les besoins sont pareils, ou en Amérique latine. On reçoit presque tous les jours des emails de gens qui souhaitent avoir accès à cette technologie.
Et question subsidiaire, mais une machine qui finalement coûte moins cher que les machines qu'on a ici et qui est tout aussi performante, est-ce qu'elle ne va pas finir par intéresser les hôpitaux ici?
Ça a toujours été un peu notre credo personnel. Quand on peut faire quelque quelque chose qui est robuste, qui est moins cher, eh ben, ça intéresse tout le monde. Ça n'intéresse pas que les pays du Sud. Et les partenaires industriels le comprennent très bien. On a souvent, pratiquement tous nos projets, on a des partenaires industriels qui font des sous-ensembles. Eux, ça les intéresse parce que ça permet d'améliorer leur marge aussi.
Les technologies essentielles aujourd'hui dans CQFD avec vous, Klaus Schoenberger. On va passer à une autre réalisation de votre programme Essential Tech. Une demande qui est venue du monde humanitaire pendant l'épidémie d'Ebola.
Oui, alors il faut se rappeler qu'entre, disons, 2014-2015, il y a eu cette épidémie Ebola vraiment grave en Afrique de l'Ouest. Et il s'est trouvé que deux médecins qui étaient spécialistes sont partis en mission au Libéria, Olivier Hagon et Laurent Kaiser des HUG. Et ils ont constaté quelque chose qui les a vraiment choqués, c'est que les tenues de protection qui étaient utilisées par Médecins Sans Frontières, qui a d'ailleurs fait un travail héroïque sur place à mon avis, elles n'étaient pas vraiment adaptées ou pas du tout adaptées aux besoins locaux puisque la température était très élevée. Donc ces gens travaillaient avec des tenues et après 45 minutes ils étaient épuisés, ils devaient sortir des zones de traitement des patients. Le risque était très grand chaque fois qu'on enlevait les tenues parce qu'elles étaient composées de plusieurs pièces. Et donc, il y avait un risque de contamination. Le coût est très élevé, c'est des pièces jetables, donc il fallait chaque fois les débarrasser, c'est des problèmes de logistique, etc. Donc, ces deux médecins contactent les PFL pour voir si on ne pouvait pas développer une solution qui, en gros, était un peu plus avancée que la tenue des médecins de la peste avec le grand bec, qui est presque un peu la même chose au niveau de la sophistication.
On en est là, on n'a pas beaucoup plus évolué.
Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis. Ouais. Et donc, maintenant, on veut aller plus loin. On veut concevoir une tenue ventilée, réutilisable. L'idée, c'est vraiment d'être réutilisable plutôt que jetable. Et en un seul tenant, qui soit facile à mettre et à enlever en toute sécurité. Donc actuellement, ce projet, on a réussi à créer un consortium en partenariat avec MSF, avec les HUG, et aussi des partenaires, des entreprises suisses, deux entreprises suisses, et des partenaires en Belgique. Donc c'est de nouveau un assez gros consortium qui s'adresse à tous les différents sous-ensembles de cette tenue. On a levé des fonds et on a pu démarrer le projet. On a déjà un premier prototype qui a été construit et le deuxième est en cours qui sera testé par MSF.
Mais cette combinaison, vous la décrivez comme si elle est dans le futur. Moi, je l'ai vue, elle existe déjà en tout cas en prototype. C'est une sorte de combinaison. Ça ressemble un peu à une combinaison de natation sèche, c'est ça, hein? Ça ressemble un petit peu à ça,
oui,
si on simplifie.
C'est marrant que vous le mentionniez parce que notre partenaire principal qui sera chargé du déploiement de la technologie, c'est un fabricant de tenues de plongée. Donc, il s'appelle SF Tech. C'est un fabricant suisse qui fabrique des plongées étanches. Donc, il sait faire des tenues parfaitement étanches. Et donc, effectivement, on s'est beaucoup inspiré de l'existant.
Alors, on remarque que ce projet de tenue de protection pour le personnel médical sort un peu de votre idée de base, parce que l'idée de base, c'était des technologies essentielles pour des populations les plus démunies. Et là, on passe finalement à un dispositif qui est utilisé par les soignants en situation de crise. Donc, ce n'est plus tout à fait l'objectif de départ.
Alors, moi, je pense que les questions d'aide d'urgence, des questions de s'adresser à des questions de situation de crise et les questions de développement sont intimement liées. On peut plus les séparer en fait. Les crises, elles frappent très durement les pays pauvres, mais particulièrement les pays pauvres. Par exemple, l'Ebola s'est développé et a prospéré dans des pays où les systèmes sanitaires étaient vraiment très sous-développés. Pour rappel, le Libéria, la Guinée et le Sierra Leone, qui ont été les principaux affectés, ils sortaient de longs conflits, donc ils étaient extrêmement vulnérables. Et si ces pays avaient eu un système de santé efficace et bien équipé, cette situation n'aurait jamais pu prendre cette ampleur. Mmh. Il faut aussi dire qu'il y a eu plus de morts à cause de l'effondrement du système sanitaire que dû à Ebola. Il faut imaginer que dès lors que le système sanitaire s'est effondré, il n'y avait plus possibilité de faire une césarienne ou de s'occuper d'accidentés de la route, etc. C'est les choses quotidiennes dans les hôpitaux. Donc, des solutions durables et adaptées au contexte, on en a besoin. Les humanitaires, ils en ont besoin, mais les pays en ont aussi besoin. On a besoin d'être prêts pour la prochaine épidémie. Et ça, c'est une contribution, à mon sens, aussi importante pour le développement. Et les humanitaires l'ont bien compris, avec MSF, avec la tenue Ebola, mais aussi le CICR, avec lequel on a lancé un projet pour le développement d'une prothèse de pied.
Alors justement, j'allais vous en parler, parce que alors vous me dites c'est la même chose finalement, Essential Tech et puis l'humanitaire. Cela dit, il y a quand même cette unité qui existe maintenant qui s'appelle Humanitarian Tech Hub. C'est juste qui fait partie d'Essential Tech ou pas, ou c'est différent?
Oui, en fait, ça fait partie du Centre de coopération et développement.
De l'EPFL.
De l'EPFL, toujours. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le CICR est convaincu par l'approche qu'on a proposée avec Essential Tech et nous a approché en disant mais est-ce qu'on pourrait créer ensemble une plateforme de technologie humanitaire, donc vraiment prendre l'angle humanitaire. Et le but, c'est de lancer des projets de technologie adaptés aux besoins des opérations humanitaires qui sont vraiment très similaires à ceux qu'on est en train de développer pour les pays en développement. Et ils avaient d'ailleurs identifié les mêmes technologies que nous, comme technologies essentielles, de leur côté. Donc on a trouvé vraiment beaucoup de points communs et ce hub, il existe. C'est pour moi une magnifique chose. Le premier projet, il s'appelle Agilis. C'est le développement d'une prothèse de pied aux propriétés dynamiques avancées et qui coûtera 40 fois moins cher que les solutions qui existent aujourd'hui. Il faut savoir que le CICR équipe plus de 30 000 personnes par année dans le monde d'une prothèse. Et je voudrais quand même dire que le CICR, pour moi, c'est une organisation extraordinaire. Elle est pionnière dans l'humanitaire. Et moi, je suis très fier de collaborer avec cette organisation.
Et la prothèse, ça sera pour quand, idéalement ?
Alors, là, on est quand même probablement à 2-3 ans avant qu'elle soit prête. Mmh. Mais il y a de nouveau une entreprise qui est impliquée, donc qui est prête à fabriquer cette prothèse. Donc, on n'est pas des rêveurs à se dire, on fait une jolie technologie, puis après, on trouvera quelqu'un plus tard qui la déploiera.
Notre grand invité dans CQFD ce matin, Klaus Schoenenberger, chef du programme Essential Tech à l'EPFL. Après Amadou et Mariam, on va s'intéresser à une autre part importante de votre travail, c'est l'enseignement et le partage de connaissances ici ou ailleurs. Amadou et Mariam avec M à la guitare, Ma Cité l'a dit. Voici une infotrafic.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Chiasso-Lucerne, un bouchon s'étend sur 2 km entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, ce qui représente une attente de 20 minutes environ. CQFD, 10h43, dernière partie de notre rencontre avec vous, Klaus Schönenberger, chef du programme Essential Tech à l'EPFL. Nous avons eu un aperçu de différents projets que vous menez à bien dans le cadre de Essential Tech. Mais la formation est aussi l'une de vos priorités.
Pour progresser, il faut changer un peu les mentalités. Et il faut aussi changer notre relation avec les pays du Sud, qui doit vraiment évoluer et cesser d'être uniquement basé sur l'assistance et les dons. Moi, je pense et je rêve d'une nouvelle vague d'entrepreneurs qui adresserait ces problèmes vraiment de ces problèmes de société avec ces questions sociales à l'esprit dès le début. Donc, à mon avis, l'entrepreneuriat, c'est un langage universel. Il suffit d'aller dans les rues de Yaoundé ou de Lagos ou de Nairobi pour voir à quel point l'entrepreneuriat est extrêmement présent. Et je pense que par le biais de jeunes entrepreneurs dynamiques, on peut changer beaucoup de choses. Donc, il faut montrer à nos étudiants comment créer des entreprises avec un impact social durable. Et c'est pour ça que je m'engage aussi dans l'enseignement.
Avec l'idée aussi, j'imagine, de bosser avec les ingénieurs sur place, c'est-à-dire des étudiants en Afrique, ils ont des idées aussi et des capacités.
Tout à fait. Et on reviendra dessus, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu faire une formation en ligne qui puisse être accessible dans le monde.
Alors, on peut distinguer deux chapitres dans vos activités de formation. Il y a la formation sur le terrain et puis il y a celle que vous donnez ici aux jeunes ingénieurs qui s'intéressent au développement. On va peut-être commencer par parler de la formation que vous donnez sur le terrain avec un projet intéressant que vous menez au Cameroun.
Oui, alors au départ, quand je suis allé au Cameroun, j'ai vu qu'il y avait, on a vu, parce qu'on est toute une équipe, on a vu qu'il y avait un problème d'accès à l'électricité dans les hôpitaux. Alors, le premier réflexe comme ingénieur, c'est de se dire, on va développer des appareils qui résistent à l'instabilité des réseaux électriques. Mais on s'est vite rendu compte que c'est pas suffisant. On peut pas réinventer tous les appareils qui existent. Donc, en parallèle, il faut aussi former les personnes locales. Il faut que les personnes locales aient le niveau de formation pour créer des installations correctes et les maintenir, etc. On s'en a proposé la création d'un laboratoire conjoint entre l'EPFL et l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, au Cameroun. Et on a créé ce laboratoire à Yaoundé sous la responsabilité des partenaires camerounais. Et avec pour but vraiment d'organiser la formation des étudiants sur ces questions particulières. C'est vraiment des questions aussi d'ingénieurs. Et ce labo organise des séminaires chaque année. Les profs de l'EPFL y enseignent. Et la belle histoire, c'est que les entreprises locales payent pour participer à ces formations et ça finance le laboratoire. Donc ça, c'était un petit peu notre rêve au départ. C'est déjà tout de suite de trouver une sorte de modèle d'affaires qui puisse être autofinancé.
Mais s'il y a aussi des résultats, parce que là, vous dites, en fait, ça devrait régler les problèmes de courant électrique et de coupure de courant. Alors, est-ce qu'on peut aussi déjà dire il y a une amélioration au niveau des hôpitaux, au niveau du réseau électrique, ou ça, c'est encore de la musique d'avenir?
C'est très lent. Je pense que ça passe déjà par une prise de conscience. Donc, les chercheurs sur place ont commencé à mesurer la situation du courant dans les hôpitaux. C'est vrai que dans le système de santé, les ministères sont souvent très séparés. Vous avez le ministère de santé, le ministère de l'énergie, et les uns ne se parlent pas forcément aux autres. Donc ça veut dire que les médecins disent « bon, ben, ça c'est pas notre travail, ça c'est le travail du ministère de l'énergie, on peut rien y faire ». Mais le fait de faire ressortir ces problèmes, les mettre au jour, au grand jour, ça peut déjà contribuer à changer les choses.
Et puis ces formations que vous avez mises en place donc au Cameroun, est-ce que vous avez aussi souffert de ce problème que vous avez évoqué en première partie, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, c'est-à-dire une fois qu'on a formé un jeune à ces technologies, ben il va aller vendre ses connaissances au plus offrant, c'est-à-dire ailleurs?
Bon, ça c'est clair. Je pense que tant qu'il n'y a pas de perspective professionnelle intéressante pour les gens dans les gens vont partir. Et même à l'intérieur des pays, les gens sont extrêmement mobiles. Donc il faut en tenir compte. Ça, c'est un aspect du contexte. Il ne suffit pas d'aller sur place, de former quelqu'un, puis de se dire il va rester là à tout jamais. Il va partir, il va vendre ses services ailleurs. Et donc il y a une rotation très importante de personnes, mais tous ne partent pas. Donc moi, je fais le pari de la formation. C'est toujours un bon investissement. Et puis, à mesure que ces pays vont se développer, les gens vont rester parce que les opportunités seront là et on va avoir un cercle vertueux.
Mais vous, concrètement, pour les retenir sur place, leur dire restez avec nous, aidez-nous sur le terrain, vous apportez aussi une forme de manne financière, c'est-à-dire que vous payez leur salaire ou vous allez jusque-là?
Non, alors ça, on ne fait pas. Par contre, on essaye de montrer des opportunités justement d'entrepreneuriat où eux, alors comme ils ont un esprit très entrepreneurial sur place, beaucoup plus je dirais que nos étudiants ici, ils comprennent très vite qu'ils peuvent aussi créer des entreprises et des opportunités.
Il y a du business à faire quoi.
Il y a du business à faire. Ouais.
Alors si on revient justement à chez nous, là, ici en Suisse, à l'EPFL en l'occurrence, vous formez des ingénieurs pour qu'ils soient compatibles avec des projets de développement. Vous essayez de faire rentrer ça dans les veines et dans
l'ADN,
nos ingénieurs, dans l'ADN de nos jeunes ingénieurs.
Oui, alors on a vraiment, avec ma collègue Sylvia Hostetler, on vient de lancer un nouveau cours de niveau master qui s'appelle Development Engineering, donc ingénierie du développement. Et dès la première session, on a été surpris par le nombre d'étudiants qui voulaient le prendre. Donc ça correspond vraiment à une aspiration profonde des étudiants qui veulent donner un sens à ce pourquoi ils sont ingénieurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un peu une vision un peu simpliste, c'est-à-dire pour eux, il y a un côté entreprise à but lucratif. Et de l'autre côté, il y a les ONG qui sont sans but lucratif et donc les pays sont pauvres. Donc, c'est automatiquement les ONG qui doivent avoir une activité dans les pays du Sud. Et pour moi, c'était très intéressant de les voir évoluer et comprendre qu'il existe des modèles combinant la volonté d'impact social et une approche business. Et ça, c'est comme une révélation pour certains de ces étudiants. Ils disent, mais ça ouvre un monde de possibilités pour nous ingénieurs. Le développement, c'est pas qu'une affaire de sociologue et de médecin, c'est aussi une affaire d'ingénieur.
Est-ce qu'il y a aussi des réflexes un peu paternalistes de la part des étudiants, le fameux paternalisme de l'aide qu'on va apporter en Afrique?
Oui, alors ça, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce de modèle où on se dit, bon, on va sur place, on forme les gens, puis quand ils sont formés, on part et tout va bien. Ça c'est vraiment un rêve, c'est une sorte de chimère que les gens ont comme réflexe. Ça fonctionne pas comme ça. Si les gens sur place ne voient pas une raison de faire les choses, c'est-à-dire s'ils gagnent pas leur vie dans l'histoire, eh ben ils vont pas le faire. Et ils sont comme nous, on est tous humains. Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc il faut aller sur place, former, mais rester pour accompagner, c'est ça?
Alors, moi je pense qu'il faut pas seulement former, il faut développer des modèles qui font que les gens gagnent leur vie avec. Parce que sinon ça tient pas.
Mmh. Et puis, vous avez également trouvé un moyen d'exporter votre cours, donc celui dont vous venez de parler, plus ou moins, hein, Innovation Technology ou Innovation Technologique pour le Développement Durable, sous forme d'un MOOC, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, les MOOC, c'est les, on va le rappeler, les Massive Open Online Course, qu'on peut traduire par cours en ligne ouvert et massif, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, nous, on a réalisé assez vite qu'on ne pourrait même pas faire ne serait-ce qu'1% de tous les projets qu'on a envie. Donc, on nous approche de tous les côtés maintenant avec des magnifiques idées. Donc, il fallait que d'autres essayent cette approche aussi. Il fallait qu'on se lance, qu'il y ait beaucoup de projets concrets. Et le MOOC, c'est une possibilité, c'est une opportunité de passer à très grande échelle. Alors, on vient de le lancer, mais on a déjà 2000 personnes dans le monde qui suivent ce MOOC. Et qui est intéressant, c'est que parmi les 2000, une grande partie sont en Inde. Donc, on voit que ça accroche quand même pas mal. Et l'idée, c'est vraiment pas seulement d'informer les autres, mais c'est aussi d'apprendre d'eux. Parce que s'ils utilisent l'approche et la méthodologie, on va aussi comprendre beaucoup mieux comment ça fonctionne.
Juste détail, donc 2000 personnes qui le suivent, c'est une formation qui est certifiante, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de là, il y aura un examen, ils vont être ingénieurs du développement.
Alors, ils peuvent obtenir un certificat. Alors, je dois quand même dire que la majorité ne le demande pas, donc c'est des gens qui sont juste intéressés par le contenu. Il faut savoir aussi que le certificat coûte quelque chose. Le cours lui-même est gratuit, mais le certificat coûte quelque chose.
Donc, il faut quelqu'un qui corrige. Et voilà.
Ou disons, c'est une question de modèle d'affaires de ces grandes plateformes, donc le certificat doit être payant. Bon, moi je pense que l'intérêt c'est vraiment que l'information, le savoir soit distribué et puis que nous on apprenne et qu'eux apprennent quelque chose. C'est vraiment ça qui est intéressant.
Et vous imaginez éventuellement monter une grande plateforme ensuite pour que les projets s'agrègent les uns aux autres sur une plateforme internet?
Alors c'est exactement ce qu'on a fait. On a même dans le cadre du projet, du MOOC, on propose aux gens de mener leur propre projet et de suivre la méthodologie alors qu'ils suivent le cours. Et ils peuvent charger leur projet sur une plateforme commune qui peut être accessible.
Juste peut-être revenir sur les pièges, parce que dans ce MOOC, j'imagine que vous expliquez aussi à vos étudiants les choses à ne pas faire. On a mentionné le paternalisme, on a mentionné cette idée que les ONG vont, sauver le monde et que les entreprises vont gagner de l'argent ici dans les pays riches. Il y a d'autres pièges comme ça que vous devez expliquer?
Oui, alors moi je pense que le premier piège, et c'est celui contre lequel je lutte un peu, c'est le piège de tomber dans le bricolage. Les pays pauvres, les gens pauvres, on pense qu'on doit leur fournir des solutions au rabais parce que c'est sous prétexte que c'est moins cher et que c'est simple, etc. Il y a des choses qui me choquent vraiment. On a des cas où des gens ont proposé, ou des chercheurs même, ont proposé des solutions d'équipements médicaux bricolés avec deux bouts de bois et trois bouts de carton. Pour moi, et ça sous prétexte de simplicité et de bas coût, on fait n'importe quoi. Et pour moi, ça, c'est pas éthique. Je pense qu'il faut développer des solutions durables et de bonne qualité qui puissent être produites en série parce qu'on veut vraiment s'adresser au grand nombre. Et ça, c'est justement le défi. Et c'est pour ça qu'on est à l'EPFL et qu'on a besoin de sciences de pointe.
Oui, cette semaine, on a notamment reçu le CEAS, donc le Centre écologique Albert Schweitzer de Neuchâtel, qui, eux, parlent pas mal de low-tech. Et c'est pas un terme que vous aimez beaucoup, vous, la low-tech.
Non, moi, j'aime pas ce terme parce que ça laisse entendre justement ce côté technologie au rabais. Technologie pauvre.
Je crois pas que c'est comme ça qu'eux l'entendent, mais
c'est ça. C'est ça. Non, moi j'ai un immense respect pour le CEAS, je voudrais jamais le critiquer, mais je pense qu'il faut pas, c'est justement le travers dans lequel je pense qu'il faut pas tomber, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire, ok, on doit faire super bon marché, alors on bricole. Et je pense que ça, c'est une erreur.
Pour terminer, Klaus Schoenberger, quelles sont les limites d'une approche comme la vôtre, c'est-à-dire de développer des technologies essentielles à mettre à disposition finalement aux personnes les plus démunies sur cette terre? Qu'est-ce qu'on peut malheureusement pas faire?
Alors, j'avais posé la question à un médecin au Kenya, ce qu'on pouvait faire pour lui. Et il a répondu avec beaucoup d'humour en disant si comme ingénieur je pouvais changer le cœur des gens pour qu'ils soient moins rapaces les uns avec les autres, ce qui est évidemment pas tellement à ma portée, mais ce qui est pour moi très clair, c'est que la technologie seule, c'est pas la solution contre la pauvreté. Ça marchera pas tout seul. C'est un problème extrêmement complexe, la pauvreté qui a de multiples causes, mais à la base, il y a l'humain et sa volonté. Et donc là, moi, je pense qu'il y a des limites dans ce qu'on peut faire, nous. Mais il y a eu des progrès extraordinaires. En 1981, il y avait presque la moitié de la population mondiale qui vivait en cas de pauvreté extrême, donc sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on est en 2016, il y a moins de 10%. Mais ça reste 10% d'un nombre très élevé. Donc ça reste beaucoup de gens
qui vivent... Parce qu'on est plus nombreux qu'en 80.
C'est ça.
C'est toujours le milliard. On parle toujours du milliard.
C'est ça, on parle du milliard, à peu près. Et donc, moi, je pense que la science doit jouer son rôle. Le but de la recherche scientifique, c'est pas seulement de pousser toujours plus loin les limites de la science, mais c'est aussi de faire bénéficier le plus grand nombre de ces inventions. Et pour moi, ça, c'est un vrai privilège pour moi de travailler à l'atteinte de cet idéal.
Eh bien, on vous remercie d'avoir fait passer ces messages, ce dernier message notamment aujourd'hui à notre micro. Klaus Schoenberger, ingénieur chargé de cours et chef du programme Essential Tech à l'EPFL. Et je vous renvoie à l'entier de notre série consacrée à la science qui vient en aide aux plus démunis. Plein d'initiatives très concrètes à réécouter sur notre page rts.ch/CQFD.
Come.